Un jour dans le monde, un jour au Soudan, dans ce pays ravagé depuis un an par la guerre, c'est l'histoire d'un conflit oublié. Même la conférence d'hier de 14 pays organisée à Paris pour collecter de l'aide est presque passée sous les radars à cause de la tension au Proche-Orient.
Aujourd'hui, d'importants moyens ont été mobilisés grâce à vous. Et au total, nous pouvons annoncer que plus de 2 milliards d'euros seront mobilisés en faveur des femmes et des hommes du Soudan.
2 milliards d'euros pour un pays au bord du gouffre, c'est une aide d'urgence d'abord pour une population affamée, assoiffée, persécutée. La guerre qui s'est déclarée il y a un an tout juste entre l'armée du général Al-Bourhan et les FSR, les paramilitaires de soutien rapide de son ancien adjoint devenu ennemi, le général Daglo, a fait au moins 15 000 morts, 8,5 millions de personnes ont été déplacées pour fuir les combats et une violence aveugle, imprévisible. La plupart des infrastructures du pays ont été détruites, les trois quarts des hôpitaux, et on estime que 25 millions de Soudanais ont besoin d'aide, soit la moitié de la population. Bonsoir James Reynolds.
Bonsoir.
Et merci d'être en direct de Genève. Vous êtes le directeur adjoint pour l'Afrique du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Alors, vous avez participé hier à la conférence de Paris. Qu'est-ce qui, pour vous, finalement, est le plus important, le niveau d'aide collectée ou la médiatisation ?
Je pense qu'il y a différentes choses. C'est clair que c'est un conflit qui dure maintenant depuis exactement une année, qui a fait effectivement des ravages dans le pays. Les Soudanais, les Soudanaises en souffrent beaucoup. Donc je pense que c'était important de ramener l'attention internationale sur le Soudan. Et effectivement, dans ce sens-là, la conférence était très bienvenue. Je pense que si on regarde le niveau de participation des pays bailleurs, les pays voisins du Soudan, les acteurs internationaux onusiens, le CICR, entre autres, c'était réussite. Au niveau du financement, c'est clair, on a besoin de ressources pour agir. Et les engagements faits par les différents acteurs hier sont effectivement les très bienvenus. Mmh. Il faut transformer un engagement rapidement, ça c'est clair aussi. Je pense qu'il y a un facteur de temps dans cela. La saison des pluies commence et la période de soudure. Pour la partie de la population rurale, donc c'est effectivement, il n'y a pas de temps à perdre pour transformer ces pledges en cash, entre guillemets.
Il faut agir vite, hein, vous dites. Selon les Nations Unies, le Soudan est en train de vivre la plus grave crise alimentaire au monde et peut-être aussi la pire jamais connue. Est-ce que vous faites le même constat aujourd'hui ?
C'est difficile d'avoir les données précises, mais il est clair que la situation en insécurité alimentaire est très très grave. Je pense que c'est le plus grave en Afrique, en tout cas actuellement, et probablement au niveau mondial. On voit, comme vous l'avez dit en introduction, 8,6 millions de personnes, de Soudanais déplacés de leur propre résidence. Alors forcément, ils ont moins d'accès aux biens, à la nourriture. Donc oui, c'est très très grave. Il est difficile d'obtenir des données précises, comme je disais, et je pense que la situation varie. Il y a des poches où vraiment on est dans une situation presque catastrophique.
Par exemple,
il y a d'autres endroits. Je pense que c'est souvent les zones les plus affectées par le conflit sont aussi les zones où la population est plus dans le besoin en termes d'alimentaire.
C'est-à-dire la capitale, c'est-à-dire le Darfour.
Oui, je pense qu'on peut parler de la capitale, Khartoum. Des parties de Darfour, dans l'ouest du pays. Dans le sud, la zone dite Kordofan aussi est assez affectée. Mais même dans d'autres zones, on voit c'est une population qui, on estime peut-être que le GDP, le BNP a chuté de 12%. De 12% en 2023, probablement de 20% de plus en 2024. Donc c'est des baisses énormes.
Oui, mais c'est un pays qui s'effondre en fait, parce que même les infrastructures sont complètement détruites. Il n'y a plus d'économie. Comment on se nourrit aujourd'hui quand on est soudanais ? Comment trouve-t-on de la nourriture ?
Je pense que ça varie beaucoup selon l'endroit où on se trouve. Probablement la moitié, ou entre 40 et 50% des cultivateurs n'ont pas pu cultiver comme ils auraient fait autrement. Faire la récolte va être difficile aussi. Donc je pense qu'il y a une production alimentaire qui en chute. C'est un pays qui produisait peut-être 2/3 des céréales dont ils avaient besoin avant cette guerre.
Oui.
Si on en produit que la moitié, bah forcément il y a soit des importations commerciales, soit de l'aide humanitaire, une combinaison des deux idéalement.
Et comment les aidez-vous, vous, concrètement? Alors je crois que le CICR est implanté dans le Darfour et à Port-Soudan. En ce moment, vous n'êtes plus à Khartoum, hein?
On n'a pas actuellement une équipe à Khartoum, vu la situation sur le plan sécuritaire, mais on arrive à travailler à l'ouest et à l'est du pays.
Alors, qu'est-ce que vous leur fournissez?
Je pense qu'on vise effectivement de soutenir les structures de santé avec les livraisons de médicaments pour que les structures de santé puissent continuer à tourner.
Oui.
Nous essayons aussi d'agir en tant qu'intermédiaire neutre, d'offrir un espace en dialogue constant avec les deux belligérants pour dire, OK, on a besoin peut-être un technicien a besoin de réparer un système d'eau dans une ville. On peut garantir, entre guillemets, la sécurité d'une équipe pour aller le réparer, pour éviter que ces systèmes-là s'effondrent complètement.
Parce qu'il y a aussi un problème crucial d'accès à l'eau en ce moment au Soudan.
Oui, effectivement. Je pense qu'on peut dénombrer peut-être presque 2 millions de personnes où on a essayé d'aider pour rétablir ou maintenir un accès à l'eau potable. Là aussi, je pense qu'il y a les systèmes en milieu rural et les systèmes en milieu urbain sont assez différentes, mais ça reste crucial. Mais c'est un peu sur tous les plans, hein, que ça soit l'accès à la nourriture, peut-être la moitié des fonctionnaires du pays n'ont plus de travail, plus de revenus pour leur famille non plus. Donc c'est vraiment un peu sur tous les plans.
En fait, c'est une situation absolument chaotique où on dit même que les marchés sont vides parce que les habitants n'osent même pas sortir à cause des snipers. Mmh. Parce que c'est une sale guerre, il faut le dire.
C'est une guerre qui a un impact catastrophique pour sa population. Je pense même dans une ville comme Khartoum, je pense qu'il y a des quartiers où on peut pas dire que la vie continue normalement, mais qui continue à fonctionner avec les commerçants qui arrivent à tourner. D'autres qui sont proches d'une ligne de front, et c'est des lignes de front qui bougent aussi. Mm-hmm. Donc il n'y a pas vraiment de stabilité dans la durée, nulle part. Mm-hmm. Donc voilà, l'image varie selon l'endroit, mais c'est très négatif partout, effectivement.
Alors, restez avec nous, James Reynolds, restez avec nous, on va poursuivre cette conversation, mais nous sommes aussi en ligne avec Elliot Brachet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des correspondants de France Inter qui connaît le mieux cette région. Vous étiez installé au Soudan pendant 3 ans. Vous avez dû quitter le pays au démarrage de cette guerre il y a donc un an pile. Aujourd'hui, vous nous parlez depuis le Caire. Où en est le conflit soudanais aujourd'hui? Quelle est la situation sur le terrain, Elliot?
Alors si on regarde une carte du Soudan, le pays est divisé en 2 zones approximatives. À l'ouest, les paramilitaires du général Hemeti ont conquis la quasi-totalité du Darfour. Ils avancent dans la région du Kordofan, au centre du pays. Ils tiennent toujours de larges pans de la capitale Khartoum. Et en décembre, ils ont pris le contrôle de la Ghezira, une région qui borde le Nil, réputée pour ses terres fertiles. De l'autre côté, l'armée régulière du général Burhan est cantonnée plutôt à l'est du pays. Elle ne tient plus qu'une fraction du territoire soudanais, coincé entre le Nil et la mer Rouge, de la frontière égyptienne au nord et à la frontière éthiopienne au sud.
Mmh. Donc depuis un an, le rapport de force penche plutôt en faveur des troupes de Hemeti et de la milice paramilitaire.
Oui, on peut dire qu'elles ont été plus efficaces sur le champ de bataille. Les forces de soutien rapide sont plus mobiles, mieux équipées, mieux entraînées que l'armée régulière vieillissante. Les troupes de Hemeti ont notamment bénéficié d'un soutien militaire venu de la milice russe Wagner via la Libye ou la Centrafrique, mais surtout de la part des Émirats Arabes Unis qui ont livré de l'armement via le Tchad. Néanmoins, depuis le mois de janvier et pour la première fois depuis un an, les forces armées du général Burhan ont repris l'initiative. L'armée soudanaise qui est soutenue soutenue entre autres par l'Égypte, l'Iran, la Turquie, le Qatar, reprend du terrain dans la capitale, notamment grâce à son aviation et à ses drones. Elle a enchaîné quelques victoires qui ont suscité un regain de morale au sein des troupes régulières et un soutien croissant de la population dans les zones libérées du joug des paramilitaires.
Les lignes de front ne sont pas claires, elles n'ont pas beaucoup évolué en un an. Cette situation militaire presque dans l'impasse aujourd'hui accroît donc chaque jour les souffrances des civils.
Oui, ce qui est assez unique, c'est que les deux camps enfin multiplient les crimes de guerre contre en fait leur propre population qui est prise entre deux feux. L'armée régulière, par les airs, réalise des bombardements très coûteux en vie civile. De l'autre côté, les forces de soutien rapide multiplient les exactions, les pillages, les exécutions sommaires et les viols de masse. Mmh. Il y a une autre donnée qui est très préoccupante, c'est le recrutement massif de gré ou de force de milliers de civils par les deux camps. On assiste à une milicisation du conflit avec de nombreux groupes armés, souvent peu disciplinés. Et ce qui pousse le pays au bord de la guerre civile, car ces recrutements se font souvent sur des bases ethniques, ce qui fait craindre que même si Burhan et Hemeti venaient un jour à signer un accord politique ou militaire, le conflit, lui, pourrait s'enliser plus longtemps.
Merci Elliot. Je reviens vers vous, James Reynolds, vous qui êtes du Comité international de la Croix-Rouge. Selon l'ONU, dans les 5 prochains mois, près de 5 millions de personnes pourraient plonger dans une insécurité alimentaire catastrophique. Déclarer l'état de famine, ça pourrait changer quoi ?
Je pense que ça pourrait attirer encore plus l'attention.
Mais concrètement, ça change quelque chose ou pas ?
Je pense que ça ne change pas forcément quelque chose pour monsieur ou madame Lambda dans un village au Soudan. Je pense que ça devrait, comme je disais, attirer l'attention, attirer un financement, encourager les parties de faciliter l'accès aux humanitaires et l'accès pour l'aide humanitaire partout dans le pays, sans politisation de cette aide.
Il y a plusieurs millions de personnes qui ont fui les combats. Certaines ont fui, entre autres, vers le Tchad. Le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, qui était à Paris hier, se disait favorable à des couloirs humanitaires sécurisés sous l'égide des Nations Unies. Vous aussi, j'imagine. Mais est-ce que c'est possible de le mettre en place ? C'est toute la question.
Je pense que c'est difficile. Je pense que la situation dans les pays voisins est effectivement extrêmement difficile. Notamment, mais pas uniquement, le Tchad et le Soudan du Sud ont pris énormément de réfugiés. Nous sommes en contact constant avec les autorités à Port-Soudan, oui. Avec les forces de soutien rapide plutôt dans l'ouest du pays. Mm-hmm. Et je pense les acteurs, le PAM, le Programme alimentaire mondial, et les autres agences onusiennes, oui, le sont aussi.
Oui. Donc il faudra négocier avec eux au cas par cas. Et pour l'instant, j'imagine, c'est encore extrêmement compliqué. Merci en tout cas, merci James Reynolds d'avoir été l'invité d'Un jour dans le monde et d'avoir fait un point très complet. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint pour l'Afrique du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Bonne soirée.